vas a acabar.
Ave María, Lola.
Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me estoy quedando.
Ave María, Lola. Conmigo vas a acabar.
Ay, mira, mira, Lola, Lola, Lolita. Conmigo, Lola, vas a acabar.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir dans quelques instants Antonin Sabot, écrivain qui vient même de gagner le prix Jean Anglade, ce qui est pas rien, et qui a écrit « Nous sommes les Chardons », c'est son premier roman, il était journaliste, il va nous expliquer pourquoi il est plus journaliste, et puis son roman, vous allez voir, qui est un peu quand même... exceptionnel, hein, je dirais que c'est pas souvent qu'on a des romans dans ce sens, hein, puisque c'est de l'imagination. On va le découvrir dans quelques instants. Voilà donc, on est en compagnie de Antonin Sabot. Antonin, bonjour.
Bonjour.
Alors Antonin, ouais, une carrière de journaliste d'abord, des études pour le journalisme.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai été étudiant à Lyon à Sciences Po et puis ensuite à Paris au centre de formation des journalistes. Et ensuite, je suis resté à Paris pour exercer.
Ok. Donc travailler quand même pas dans n'importe quel journal, hein, puis c'était Le Monde.
C'est ça.
Donc c'était alors côté plutôt politique ou général.
Alors moi j'étais assez généraliste et notamment j'étais reporter.
Ouais.
J'ai été assez généraliste. J'ai travaillé sur l'environnement. J'ai travaillé beaucoup sur l'agriculture,
d'accord,
notamment en Haute-Loire et aussi à l'étranger. Voilà, des reportages un petit peu plus difficiles dans des zones en conflit. Voilà, et puis j'avais envie de changer. J'avais aussi un peu envie de partir de Paris et en fait j'avais grandi entre Saint-Étienne et la Haute-Loire.
Et la Haute-Loire, oui.
Donc mon choix s'est vite porté sur la région pour revenir dans un endroit un peu plus calme.
Belle expérience quand même, cette expérience de journalisme.
Oui, c'est un métier formidable parce qu'on rencontre plein de gens différents, on voit plein de situations très différentes du jour au lendemain, on peut parler avec un agriculteur et le lendemain avec un chef d'entreprise.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça c'est quand même super intéressant et je pense que ça m'a nourri en plus après pour l'envie d'écrire autrement, évidemment, mais quand même avec des notions de ce qu'est la vie des gens. Et je pense que c'est important de savoir ce qu'est la vie des gens quand on veut écrire des livres.
Ok. Alors, donc, c'est ce que vous avez fait dans votre premier roman, Nous sommes les Chardons. Vous êtes inspiré quand même de votre vie professionnelle, un peu ?
Alors, pas de ma vie professionnelle à moi.
Non,
mais des gens que j'ai rencontrés, ça c'est sûr. Voilà, c'est un roman qui parle donc de la nature et qui parle, il y a plusieurs thèmes, hein. Il y a la nature, il y a le fait d'avoir une vie un peu différente et il y a pas mal de passages sur l'agriculture et ben, notamment pour cela je me suis grandement inspiré de ce que j'avais appris en venant ici en Haute-Loire.
Ouais, parce que vous vivez près du Mézin, hein, c'est ça?
Ouais, un petit peu avant, entre Issingeaux et Le Puy, à Mézères.
Ah, Mézères, belle commune, Mézères, hein, une ouais. Commune de caractère, hein, c'est sympa,
ça.
Je connais bien. Ouais, ben Mézères, ouais, donc mais c'est vraiment la campagne quand on vient de Paris, bon...
C'est ça.
Il y a un dépaysement, je dirais pas total pour vous, parce que vous connaissiez déjà l'autre.
Ouais, j'ai grandi là. Hein.
Ouais.
J'ai grandi là.
Alors, on va parler de ce roman. Le premier, qu'est-ce qui vous a d'abord décidé à écrire un roman ?
Alors, comme je disais, donc voilà, j'ai été journaliste avant. C'est un métier où il faut qu'on s'attache aux faits. La vérité, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, à raconter ce qu'on voit vraiment dans la vie. Mais en même temps, moi, il me semblait qu'il y avait d'autres choses qui méritaient d'être racontées, qui sont peut-être un peu moins réelles, un peu moins véridiques, mais qui porte une vérité quand même. C'est-à-dire que les gens peuvent vivre certaines choses qu'on ne peut pas raconter dans un journal. Et donc voilà, c'était ça l'envie, c'était de se dire ok, voilà, le fait de mener une vie un peu détachée, un peu isolée, de voir peut-être des choses que les gens ne voient pas, et ben ça j'ai envie de le raconter parce que pour moi ça fait quand même partie de la réalité, peut-être d'un autre niveau de réalité, mais néanmoins de la réalité. Et donc il fallait passer par la fiction pour, voilà, pour parler
oui,
de ça.
Oui, alors ça c'est une grosse fiction quand même, hein, parce que bon, Martin, alors Martin, on verra après si c'est un peu votre histoire ou pas du tout. Martin, donc, il voit son père mort il y a peu venir s'attabler avec lui. Alors déjà, c'est le départ, ça paraît un peu étrange. Hein,
voilà,
quoi.
C'est
dit bien que des fois, on converse avec les morts. Il y en a qui disent, mais bon.
C'est la première scène du roman, donc juste pour rassurer les auditeurs, on vient pas de leur révéler toute l'intrigue. C'est effectivement la première scène du roman où Martin voit que son père a une grave blessure dans le dos, une blessure dont on ne réchappe pas normalement, et pourtant son père se lève et s'enfuit dans la forêt. Donc effectivement, ça c'est complètement fictif, mais le propos de base était de dire voilà, il habite tout seul avec ce père-là, il habite haut dans la montagne, probablement plus haut qu'en Haute-Loire, il y a peut-être une certaine ivresse des hauteurs, et surtout voilà, l'air de la montagne, il le dit souvent, c'est quelque chose qui revient souvent dans le livre, l'air de la montagne, tout comme l'air de la forêt d'ailleurs, n'est pas pareil que l'air des plaines. Il donne peut-être à voir des choses, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne voit pas d'habitude. C'est une introduction, c'est pas le propos principal du livre de dire voilà, il voit des fantômes, c'est pas intéressant.
Non.
Mais de dire qu'en fait, si on se place dans un lieu différent de celui de la majorité de la population, peut-être qu'on voit des choses différentes. Donc voilà, lui il commence par ça, par voir son père mort, mais en fait, le plus important c'est qu'ensuite il sait entendre la montagne, il sait entendre les animaux, il sait entendre les arbres, qui je pense ont vraiment des choses à nous dire dans la vraie vie, ça c'est sûr, et lui un petit peu il les personnifie, c'est ça en fait l'importance dans ce livre, c'est de dire ces choses là que nous parfois on n'entend plus, parce qu'on entend les voitures, parce qu'on entend les klaxons, parce qu'on entend le brouhaha de l'industrie par exemple, dans les villes, ou qu'on entend par exemple en ce moment des choses pas super sympa qui passe dans les médias malheureusement, qui se passe, il faut les entendre, il faut évidemment s'y attacher, mais peut-être qu'elle nous empêche d'entendre d'autres choses. Et donc cet enfant là qui lui a pas du tout accès aux médias, a pas du tout accès à la vie bruyante on va dire de nos contemporains, et ben lui du coup il entend autre chose, et ce message là peut-être que il faudrait que nous aussi, on arrive un peu à l'écouter. Mais ça, après, voilà, ça sera dans le roman.
C'est
dans
le livre. Ouais. Voilà. Oui, juste pour. Oui, donc c'est vrai que quand on vit à Paris, on est complètement déconnecté de la nature. Hein, parce que même s'il y a des parcs, s'il y a des trucs.
Ouais.
C'est vrai que quand on arrive en Haute-Loire, à Mézières, là, la Haute-Loire, on la rencontre tous les jours. Hein,
c'est
la,
ça.
La nature, j'y raconte tous les jours. Hein, donc, c'est très différent. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là. Pourquoi vous appelez ça « Nous sommes les Chardons » ?
Eh bien, voilà. Donc, comme j'ai dit, cet enfant-là, il est très différent de la plupart des enfants contemporains ou des enfants même d'il y a 50 ans. Encore que 50 ans, peut-être, ça se discute. Mais revenons à ce que c'est un chardon. Un chardon, ça, c'est considéré souvent comme une mauvaise herbe.
Oui,
on
n'en
veut pas, non, ça pique, et ça pique.
C'est joli quand même.
Et surtout ça pique, mais c'est joli. Et ben voilà, en fait vous avez tout dit. En fait vous avez tout dit, un chardon, ça pique, donc on n'aime pas ça. Alors qu'en fait, il faut accepter parfois de se faire piquer. Parce que c'est en se faisant piquer qu'on va peut-être regarder un peu différemment les choses et se dire, ah ok, j'étais bien confortablement assis dans mon fauteuil, mais en fait, ça me fait me lever, ça me fait regarder le monde différemment, voilà, et en même temps c'est joli, donc c'est joli et en fait ça a probablement beaucoup d'utilité dans la nature, sinon ça serait pas là hein. C'est dans l'écosystème, donc voilà, donc ça pousse dans les jardins mal fréquentés hein, pour paraphraser Brassens, mais c'est une mauvaise herbe, ça mérite d'exister et ça mérite d'être pris en considération. Donc l'idée c'était ça, c'était de dire il y a plein d'enfants dans notre monde contemporain, des enfants ou des enfants plus vieux aussi d'ailleurs, des enfants qui ne sont plus des enfants, qui ont poussé là où on ne les attendait pas, et pourtant qui ont un message à délivrer sur la société.
Alors, c'est vrai que on dit dans la nature, quand on regarde des émissions parfois dans la nature, toutes les plantes ont un rôle, hein, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, toutes les plantes ont un rôle. Et là, justement, on vient de recevoir, alors c'est sur les animaux, ça fait plusieurs fois qu'on nous envoie, on nous parle du hérisson d'Europe qui est en disparition. Donc voilà, mais le hérisson avait une grosse carte à jouer dans notre monde, hein, puisque... Et c'est vrai qu'on en voit de moins en moins.
Ouais, ouais. Donc, par exemple, tous les permaculteurs vous diront que c'est un animal qui s'attaque beaucoup aux limaces.
Voilà, c'est
et
ça.
Si on veut ne pas avoir à utiliser de produits chimiques pour tuer les limaces, si on avait plus de hérissons, ça serait mieux. C'est la même chose, j'imagine, du renard avec les campagnols, etc.
Ouais.
Et en fait, voilà, ben, cet enfant-là, évidemment que le chardon, ça peut être quelque chose d'un peu violent, mais sans aller jusque-là, voilà, c'est un enfant qu'on n'attend pas, mais dont on a probablement besoin dans le monde d'aujourd'hui, qui a besoin en plus, je pense, d'être un peu réenchanté. On a besoin un peu de la fraîcheur qu'a ce personnage-là, voilà, quand il regarde, parce que la mort de son père l'amène à aller dans la civilisation pour retrouver les traces de son père, parce que son père n'est pas... sorti ex nihilo, et pas né comme ça dans la nature tout seul. Son père vient de la ville, a quitté la ville, Paris d'ailleurs. Et donc l'enfant va voir à Paris pour voir d'où vient son père et comprendre un peu lui d'où il vient. Et voilà, et en fait, comme il est très frais, comme il est un peu naïf, on va dire, c'est un peu un zadig de Voltaire qui se promène dans une autre civilisation. Pour lui, Paris c'est une autre civilisation, et ben il apporte un regard nouveau. Et il dit, voilà, pourquoi les gens sont pressés, pourquoi il y a autant de bruit, pourquoi les objets sont droits. Il y a plein de choses qui l'interrogent et qui, du coup, j'espère, interrogeront le lecteur.
Oui, donc lui, sa curiosité est bien là quand il découvre Paris. C'est sûr, quand on vient de Mézières ou ailleurs, Paris, c'est quand même un brouhaha incessant. Alors, ce jeune garçon ressemble à Antonin Sabot ou pas du tout ?
Alors c'est évidemment une question qui se pose. Le livre est pas du tout autobiographique.
Il faut être clair
là-dessus. Après voilà, surtout je pense pour un premier roman, on met beaucoup de choses qu'on pense dans le livre. Donc oui, il y a des choses que je pense, mais c'est plutôt, je dirais presque dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt parfois j'envie Martin. J'aimerais bien avoir son regard.
D'accord.
J'aimerais bien être capable, voilà, d'entendre les arbres pour de vrai. C'est-à-dire que parfois, voilà, ben moi avant d'écrire ce livre. Je me suis un peu réacclimaté à la Haute-Loire, je me suis beaucoup promené, j'ai beaucoup fait mon jardin, tout simplement, voilà. Mais voilà, j'en suis pas encore au niveau où j'arrive à vraiment entendre les animaux me parler. Peut-être que ça arrivera, j'en sais rien, mais voilà, je blague un petit peu, mais dans l'idée, voilà, c'est plutôt une espèce d'envie. Je me dis, voilà, ah, ce serait peut-être pas mal d'être aussi sensible que cet enfant-là, voilà.
Oui, parce que lui, il va être. On va voir qu'il est très sensible dans ce livre. Alors, vous avez beaucoup voyagé, vous m'avez dit que vous avez été sur des conflits. Alors, c'est vrai que les enfants sont souvent au cœur du conflit, et c'est pas toujours ceux qui ont la meilleure place. Hein.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Et ça a pu vous inspirer un peu aussi.
Eh ben non, là sur ce livre-là, c'est pas la question. Juste, je voudrais revenir sur Paris.
Oui.
Je veux pas non plus en donner une image trop négative, c'est-à-dire que moi évidemment que je suis parti de Paris parce que j'en avais assez, hein, mais il n'y a pas une césure, il n'y a pas une coupure trop importante non plus. Donc je veux pas révéler trop de choses du livre, mais il y a des choses positives aussi qu'il rencontre à Paris, notamment justement, et c'est là où il élabore cette idée et où il dit à un moment nous sommes les chardons, parce qu'il rencontre un autre enfant. Un jeune, hein. Il n'est pas enfant en fait, il n'est plus enfant Martin, il est déjà, j'en parle comme un enfant, mais il est même jeune adulte en fait.
Adulte, oui.
C'est plutôt que comme il n'a pas encore rompu le lien avec son père, il est encore quelque part encore un peu enfant, mais en réalité il a déjà 18 ou 20 ans. Et donc il rencontre un autre jeune qui est comme lui en fait, qui est à Paris, mais qui a aussi un regard différent sur la société. Et il se rend compte que, ok, c'est pas uniquement en vivant tout seul, perdu dans une montagne, qu'on peut avoir un regard un peu critique. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, il y a ce double rapport avec Paris qui est un petit peu conflictuel, mais en même temps, il se découvre qu'il y a de très belles choses à trouver aussi dans cet endroit-là, tout simplement parce qu'il y a des gens, en fait. Et qu'à partir du moment où il y a une diversité de personnes, eh ben, il y a des profils intéressants forcément dedans.
Et puis il y a des rencontres.
C'est ça, voilà.
Puisqu'on dit souvent que la vie est faite de rencontres.
C'est ça, et c'est exactement ça qui se passe pour Martin. Voilà, encore une fois, sans dire tout.
On dévoile pas.
Mais voilà, oui, il y a plusieurs rencontres qu'il va faire à Paris, notamment, et qui vont influencer beaucoup ensuite le chemin qu'il va prendre, puisque c'est aussi beaucoup une histoire de chemin, de traces qu'on laisse, ce livre.
Oui, alors, bon, c'est vrai, on parle des jeunes actuels, bon, qui sont complètement, je dirais, impactés par cette pandémie. Hein. Moi, je dis toujours qu'on est en train de leur voler leur jeunesse, hein, parce qu'on a eu 20 ans, on savait qu'on aimait sortir, faire la fête, c'est rencontrer des amis. Là, c'est un peu compliqué. Alors, si ça. Alors, peut-être, alors, je ne sais pas, Martin, là, mais c'est vrai que les adolescents qu'on côtoie, ils ont un peu oublié tout ce qui est la nature, parce qu'on les voit avec les portables, les jeux vidéo et machin, on se parle plus, on s'envoie des SMS. Peut-être que Martin est pas du tout dans ce monde-là.
Eh ben, le père de Martin a délibérément fait le choix de s'extraire de ce monde-là.
D'accord.
Il a dit clairement, c'est dit à un moment dans le livre, que voilà, les routes, mais les routes, les réseaux de communication, donc ça englobe Internet, etc. L'époque du livre n'est pas complètement précisée, donc on ne sait pas encore si c'est le téléphone portable, etc. Mais néanmoins, ça ressemble à ce qui peut se passer aujourd'hui. Donc le père dit, voilà, on ne veut pas de ça parce que ça impose des choix, ça impose des technologies qu'on n'a pas choisies, nous. Et lui veut que son enfant soit effectivement libre vis-à-vis de ça. Mais, il y a un mais, on se rend compte quand même à un moment que... c'est une position très radicale et que c'est pas forcément le meilleur moyen pour interagir avec la société. Et que quand il arrive à Paris, il y a un certain nombre de choses dont il est très déconnecté, justement parce qu'il a eu ce rapport très radical et ce refus très radical de son père, des nouvelles technologies, etc. Et donc il y a des choses, voilà, dans lesquelles il est déconnecté, il ne comprend pas et il a besoin d'autres personnes, donc d'autres personnages dans le livre qui vont l'aider et lui dire attends, ok, c'est très intéressant la façon dont tu as grandi, mais il y a aussi d'autres choses à découvrir. Donc c'est pas un rapport unilatéral,
voilà,
au refus de la technologie, etc. Et surtout ça montre que c'est une question d'éducation, que en fait dans un sens le rapport qu'ont nos adolescents aujourd'hui avec leur téléphone portable, c'est parce que c'est nous qui ne leur avons pas appris, aussi parce qu'on n'est pas né avec, mais on ne leur a pas appris à s'en servir d'une manière intéressante, encore qu'ils y arrivent, mais on ne leur a pas forcément appris la bonne distance. Donc il y a une question de distance, et en fait Martin, c'est ça, il part de très très loin et donc il est protégé, mais en même temps voilà, il faut qu'il arrive à trouver la bonne distance.
Oui, d'ailleurs on voit que on parle, bon, qu'il est isolé dans les bois, mais on voit dans les pays très reculés, la première chose qu'on voit quand on voit un reportage, c'est qu'ils ont un téléphone portable.
C'est vrai.
C'est vrai.
Après moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique.
Ouais.
L'essor du téléphone portable en Afrique, il s'est fait notamment parce qu'il n'y avait pas de téléphone fixe.
Ouais.
Et que c'était très compliqué à installer. Et c'est vrai que souvent on a des images et les images sont très fortes, mais ensuite l'explication, elle est un peu plus nuancée, parce qu'en fait c'est juste tout simplement que c'était beaucoup beaucoup plus facile de développer le téléphone portable que d'offrir un fixe aux gens.
Oui, et puis il y a beaucoup de distance, donc aussi, hein, il n'y a pas des routes comme chez nous.
Ah ben, complètement.
On prend la voiture une
complètement,
heure après, hein.
Complètement.
Alors donc ils ont ce lien, je dirais, comme vous dites là, c'est pas de téléphone fixe, donc le téléphone portable a pris rapidement le pas, hein, sur
c'est
le reste.
Ça.
Alors aujourd'hui, on parle du premier livre d'Antonin Sabot, Nous sommes les Chardons. Alors vous avez compris que c'est sorti un petit peu de son imagination, quand même, complètement,
ouais,
je
ouais.
crois, hein, c'est ça.
Ouais.
Mais bon, alors l'idée, oui, c'est sûr, l'idée, c'est que quelqu'un qui est un peu hors tout, quoi, qui connaissait pas grand-chose, hormis, pas dire pas grand-chose, parce qu'il était très proche de la nature.
Oui, il connaît beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Mais si on avait mis un Parisien à sa place... Je suis pas sûr qu'il aurait
qu'il
pu
aurait
s'en sortir.
Passé l'hiver. Ouais.
Oui, il aurait passé.
Il se pose la question lui-même à un moment,
ouais,
quand
ouais.
son père disparaît,
ouais.
de se dire bon ben à deux on s'en sortait à la ferme.
Ouais.
Donc c'est son père a investi une ancienne cabane, on ne sait pas trop si c'est une cabane, une fermette. mais en tout cas voilà, très perdu dans la forêt, où il y a beaucoup de travail, où il y a les vaches, où il y a un grand potager, voilà, et où on vise à l'autonomie. C'est un rêve de beaucoup de gens aujourd'hui, l'autonomie. Ouais. Mais lui, il dit, bah, l'autonomie, c'est pas si facile que ça. Le jour où le père meurt, et ben, voilà, il dit à un moment, comment est-ce que je vais passer l'hiver, en fait? Est-ce que je vais réussir tout seul à faire tourner tout ça, à m'occuper des bêtes, tout en ayant en plus, voilà, son père qui est mort quelque part dans la montagne et qui va devoir retrouver. Donc, oui, c'est pas. Il a une grande connaissance du monde qui l'entoure. Parfois on dit que l'homme d'il y a très longtemps avait une très très forte connaissance de la nature, qu'il était vraiment capable, voilà, de dire le temps qu'il allait faire le lendemain, rien qu'en sentant l'odeur du sol ou en voyant comment tournait le vent. Hein, toutes des choses qu'on a oubliées, même si parfois on regarde le ciel et on se dit bon, demain il va pleuvoir, mais ça reste un peu empirique et c'est pas intégré du tout, quoi. Donc lui, voilà, il essaye de retrouver un peu ça, mais et donc il a une connaissance très très forte de son milieu, on va dire, et donc de la nature, mais voilà, mais en même temps cette connaissance, elle s'est faite au prix de la méconnaissance, voilà, d'autres choses, quoi.
Oui, et puis surtout, on voit maintenant, bon, c'est ce qu'on disait, c'est vrai que dans le temps, que ce soit les agriculteurs ou les autres, je dirais qu'ils vivaient avec le temps, avec la nature, ils savaient exactement. Mais il fallait, parce que quand on commençait les foins, il ne fallait pas qu'il pleuve.
C'est ça.
Tandis que maintenant, ça va tellement vite que même s'il pleut, pour qu'il y ait deux jours, les foins, ils sont faits. Donc c'est un peu. Je pense que les. Et moi, je sais que la réflexion d'un agriculteur que je connaissais, qui avait ses enfants, qui avait repris la ferme. Il disait, mais l'agriculture, c'est pas de monter sur un tracteur. Mmh. C'est ce qu'il me disait. Voilà.
Voilà. Le Martin, en l'occurrence, c'est une question qui se pose. À un moment, il se pose cette question-là de dire, il a l'impression avec son père, à un moment, il dit de faire comme avant. Et il se pose cette question-là parce qu'il y a notamment des vieux, à un moment, qui viennent le voir et puis qui sont assez flattés, en fait, de voir que son père et lui, entre guillemets, faisaient comme avant. Et il est ambivalent par rapport à ça, parce qu'il dit oui, effectivement, on a choisi de ne pas être dépendant des tracteurs, de ne pas être dépendant d'engrais, de pesticides, de choses comme ça. Donc, on pourrait considérer que, suivant du point de vue où on se place, que soit c'est super parce qu'on fait tout à la main comme avant, soit au contraire c'est un peu bête parce qu'il y a des moyens techniques aujourd'hui qui permettent de faciliter les choses quand même. Et en fait, il dit voilà, c'est une question de choix, c'est-à-dire que en fait. Par exemple, au moment de la crise de la vache folle, on a beaucoup critiqué les agriculteurs qui donnaient des farines aux animaux. Et en fait, lui, il dit, mais oui, mais en fait, ils ont été accompagnés dans ce sens-là. On les a presque forcés à entrer dans cet entonnoir-là qui était de dire on n'a pas le choix de faire autrement qu'avoir des gros tracteurs, qu'avoir des grosses choses. Et donc, lui, il se refuse de critiquer les agriculteurs d'aujourd'hui. Il ne veut pas qu'on les mette dans une espèce de, voilà, de panier qui dirait... vous avez tout abandonné du reste et en fait c'était mieux avant. Non, il lui-même fait un peu comme avant, mais il ne dit pas c'était mieux avant. Il dit il faut choisir et il faut savoir pourquoi on fait les choses. Il faut savoir pourquoi on a un tracteur et il faut savoir si on veut pas de tracteur, pourquoi on n'a pas de tracteur, pourquoi on n'utilise pas d'engrais ou pourquoi on en utilise, mais du coup de manière consciente. Alors que c'est vrai qu'on a tendance beaucoup, mais même c'est vrai pour les agriculteurs, mais en fait c'est vrai pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a un téléphone portable? Il y a sûrement de très très bonnes raisons, mais il y a aussi des mauvaises raisons. Donc en fait, à chacun de devoir un peu calibrer ce geste-là. Et voilà. Et Martin, le fait d'être un peu dégagé, de pas avoir eu un espèce d'endoctrinement global, ça lui permet de poser ces questions-là. Et donc ça permet au livre, je pense, de les poser et donc de ne pas apporter ce que je voulais pas. Hein, c'était apporter une réponse toute faite,
voilà.
Et dire bon, alors évidemment que moi j'aime la nature, j'aime les balades en forêt. Je préfère qu'on mette pas de cochonnerie dans la nourriture, évidemment, hein.
Ouais.
Mais je veux pas apporter une solution toute faite. Je préfère avoir ce personnage là qui est un petit peu naïf et qui pose des questions, qui s'interroge quand il voit les gens marcher très vite dans la rue à Paris. Il se dit bah, pourquoi ils vont si vite, quand il voit des agriculteurs qui peinent à finir leur fin de mois alors qu'ils ont suivi toutes les recommandations que leur ont fait le Crédit Agricole, et ben il s'interroge, en fait, tout simplement. Il pose la question. Il dit pas OK.
Il est pas hostile.
Voilà. Et puis il est pas. Oui, voilà. Il est pas monomaniaque. Il est pas. Il impose pas sa vue. Il pose la question.
Voilà.
Et je pense que ça, c'est plus intéressant. Et ça permet aussi au lecteur d'avoir sa liberté. de lire ce livre.
De dire, bah tiens, ouais.
Ouais, voilà.
Martin, il a choisi ça, bah pourquoi pas. Hein.
Voilà. Et puis en tant que lecteur, voilà, de pas se sentir enfermé non plus dans un livre unidirectionnel, quoi. J'avais envie d'ouvrir un peu le spectre. Parce qu'il me semble qu'il y a des choses qu'on ne dit pas assez, voilà, des choses sur la nature, des choses comme ça, mais qui ne sont pas les seules vérités. Il y a des vérités qu'on partage tous, mais il y en a d'autres aussi qu'on ne connaît pas, et j'ai envie d'ouvrir un peu à ça.
Alors est-ce que ça, les lecteurs le verront dans le livre, mais est-ce que son déplacement à Paris, cette rencontre avec un jeune adolescent comme lui ou un jeune homme, va peut-être... lui faire changer d'avis sur certaines choses et peut-être à l'autre dire mais tiens toi t'as une vraie vie quoi.
Complètement, ouais. Je crois que c'est en quatrième de couverture donc on peut le révéler. Il rencontre aussi une jeune femme aussi à Paris et oui ça lui apporte un autre point de vue. Comme je disais tout à l'heure, il a été élevé, son père l'a élevé beaucoup dans l'opposition à la société moderne, à la ville. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'en allant chercher les traces de son père, en fait, c'est là où il va à un moment bifurquer. J'aime beaucoup, moi, ce mot-là, de dire qu'on est sur un chemin, parfois un peu tracé. Alors, soit parfois les parents essayent de tracer un peu le chemin de leurs enfants, l'école parfois essaye de tracer un peu des chemins pour les gens, la société en manière générale. Et mais en fait, on a le droit de bifurquer. On a le droit de prendre un autre chemin. On a le droit d'aller voir un peu les sentiers de traverse. On a le droit de couper à travers champs. On a le droit de s'arrêter un peu aussi sur le chemin. On a le droit de prendre son temps. Et donc voilà. Donc lui, tout est tracé pour lui par son père. Et voilà, en rencontrant, donc, comme vous disiez, cet autre jeune homme et d'autres personnages aussi à Paris, une jeune femme, etc. Et ben voilà, il se dit ok. Il aime le chemin que son père lui a tracé. Hein. C'est un chemin qui est beau, c'est un chemin qui est sauvage, c'est un chemin qui a du panache, hein, presque. De suivre un chemin comme ça aujourd'hui, c'est pas facile.
C'est compliqué.
Voilà. Mais il se dit, ok, mais il y a d'autres chemins. Et en fait, peut-être même que parfois on peut suivre plusieurs chemins. Voilà. Donc ça, c'est dans l'évolution de ce personnage et qui font que, voilà, il y a des gens qui parlent pour mon roman, et j'en suis flatté, voilà, d'un roman initiatique. De quelque chose qui fait, voilà, que le personnage évolue depuis le début jusqu'à la fin du roman. Martin n'est pas le même à la fin du roman.
Oui, mais c'est un peu le but, hein, puisque s'il a rencontré, on arrive toujours à changer un peu, hein, pas radicalement, mais un peu à changer. Puis il rencontre une jeune fille ou une jeune femme. Bon, c'est vrai qu'il a toujours vécu en solitaire, il n'a pas beaucoup de copines, je présume. Donc, bon, il a un âge où on aime bien avoir un rapport avec le sexe opposé.
C'est ça.
Hein, un petit peu. Donc ça peut l'ouvrir encore, oui, d'autres horizons.
C'est ça, complètement. Et en même temps, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette femme qu'il rencontre, cette jeune femme qui a à peu près son âge, en gros, hein, elle aussi, elle porte un regard radical sur la société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se rend compte que donc lui, jusqu'à présent, encore une fois, il vivait à l'écart de la société, donc c'était entre guillemets facile d'avoir un regard radical sur cette société puisqu'il n'en faisait pas partie, ça ne l'impliquait pas. Et bien en fait, il se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent être dans la société, qui peuvent avoir un travail tout à fait normal, tout à fait intégré à la société, et pourtant qui peuvent avoir un regard un peu critique sur cette société. Et donc du coup, ça l'ouvre énormément, c'est-à-dire qu'il se dit ok, en fait on n'a pas besoin d'être plus radical que le plus radical des radicaux pour et d'être complètement extérieur au monde pour pouvoir le critiquer, et puis pour pouvoir l'analyser, en fait. Voire même parfois, il vaut mieux un peu s'y frotter, il vaut mieux avoir un peu vécu à Paris pour pouvoir parler de Paris, il vaut mieux avoir rencontré des gens de certains milieux pour pouvoir comprendre quel est ce milieu-là, etc. Donc du coup... ouais, du coup, je pense que c'est aussi un appel, ou un appel, c'est un grand mot, mais un petit clin d'œil, un petit appel à un peu de tolérance et un peu aller voir les autres.
Mais c'est ce qu'on oublie un peu.
Ouais, moi j'ai beaucoup, donc comme je disais, j'ai beaucoup travaillé en Haute-Loire, et je me suis rendu compte même parfois que dans un même village, entre voisins, on se connaissait finalement assez peu. On se connaît, mais en fait, on connaît pas les raisons. profonde des actions des gens, de pourquoi un tel il est au chômage depuis si longtemps que ça, on a tendance à vite le critiquer alors qu'en fait si ça se trouve il y a quelque chose vraiment de grave ou on ne sait pas en fait, ou bien pourquoi un tel partout, j'en sais rien, parfois des broutilles mais qu'on monte en épingle parce qu'on ne se connaît pas les uns les autres. Et en fait alors le métier de journaliste c'était ça qui était bien, hein, c'est quand on pouvait un peu, on entrait un peu par effraction chez les gens et ils nous racontaient leur vie qu'ils n'auraient pas forcément raconté même à leurs voisins. Et en fait, on comprend pourquoi les gens agissent. Il y a souvent des raisons, en fait. Même nos agissements un peu bizarres, parfois, il y a souvent des raisons. Et voilà, Martin, il apprend un peu ça aussi.
Voilà, donc à découvrir, hein, Antonin Sabot, Nous sommes les Chardons, premier livre. Et avec un premier livre, c'est une première réussite puisqu'il décroche le prix Jean Gatt. Ouais. C'est quand même pas mal pour un écrivain. Premier roman, décrocher un prix tout de suite.
Ouais, ben c'est super.
C'était une surprise ?
Ah ben complètement, ouais. Après, c'est ce qu'on appelle un prix sur manuscrit. Donc en fait, le roman n'était pas encore publié. On envoie des manuscrits non publiés. Voilà, donc je ne sais pas combien il y avait de personnes qui avaient envoyé, mais je pense qu'il y en avait beaucoup. Mon éditrice m'a dit qu'il y en avait un certain nombre, effectivement. Donc voilà, et on se retrouve choisi comme ça. Alors c'est formidable. En plus, bon ben, c'est le prix Jean Glade. Alors bon, à part le petit côté régionaliste, où quand même, en plus, on est un petit peu fier d'avoir ce truc-là. Jean Glade, bon, moi, je suis pas encore très vieux, hein, j'ai que 37 ans, mais je pense que même dans ma génération, il y a beaucoup de gens qui ont lu Jean Glade quand ils étaient enfants.
Moi, quand j'avais rencontré pour ses 100 ans.
Ouais. Et ben, il était à peu près à son 100e livre.
Voilà,
quelque chose comme
il
ça.
Il m'avait dit, j'ai écrit un livre par, enfin, pas exactement, parce que.
Ouais, du coup.
Mais jusqu'à 103, il est mort à 104, je crois.
103
et
ou 104.
Et c'était impressionnant parce qu'il avait toute sa tête. Et
ouais, complètement.
C'était très bien.
Donc, ça, c'est en plus, c'est une petite fierté quand même. Et surtout, ce qu'il y a chez Jean Glade, voilà, c'est que. Il a toujours refusé de se faire bien qu'il soit auvergnat. Il a toujours refusé de s'enfermer dans quelque chose de trop identitaire, dans quelque chose de trop régionaliste. Et moi j'aime beaucoup ça, de me dire j'aime beaucoup la Haute-Loire, hein, c'est sûr, ça transparaît dans ce livre. Et pourtant voilà, c'est jamais nommé. Je dis pas que ça se passe en Haute-Loire. D'ailleurs, il y a des choses qui relèvent plutôt de la haute montagne, comme je dis, il y a un peu l'ivresse des hauteurs, ces choses-là. Donc c'est un mélange, et en fait parce que lui Jean Glade, il voulait toucher à l'universel. Et alors toute proportion gardée et en gardant le plus d'humilité possible, hein, je veux pas du tout me mettre à son niveau-là, mais en tout cas, quand j'écris, j'ai envie que ça soit quelque chose d'universel. D'accord. J'ai envie de dire voilà, ce livre-là, il peut parler à des gens de Haute-Loire, j'espère, hein. J'espère surtout, hein, parce que ça me plaît beaucoup d'en parler aux gens et de rencontrer des gens et de pouvoir discuter avec eux de ce livre. Donc s'il y a des gens de Haute-Loire qui le lisent, je serais très heureux de leur en parler. Mais je pense qu'il peut parler voilà, à mes anciens amis, enfin qui sont toujours des amis mais qui habitent encore à Paris. Je suis persuadé que ça va leur parler, que ça va leur dire des choses. Ben, j'ai un ami parisien il n'y a pas très longtemps, qui est en fait stéphanois, mais qui est allé comme moi s'installer à Paris, voilà, qui me disait ben voilà, ton livre me donne un peu la nostalgie de notre région, me donne à voir d'autres choses que ce que j'ai sous les yeux tous les jours. Et voilà, ça je trouve ça super important. Et puis voilà, les messages qu'il porte, Martin, quand même, de tolérance, d'ouverture à l'autre et de découverte, et ben ça, c'est des valeurs universelles en fait. Et voilà, j'espère que Jean Glade aurait pas
renié.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais,
c'est
ben ça. Surtout la tolérance, on en a besoin en ce moment parce qu'on voit tout ce qui se passe.
Complètement.
Alors on a beaucoup tendance des fois, quand il se passe quelque chose comme dernièrement, pas très beau, on a toujours tendance à dire que toutes les personnes
à rejeter l'autre.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc pas forcément, hein, je crois qu'il faut beaucoup réfléchir.
Je suis bien
parce
d'accord.
Parce que c'est pas parce que quelqu'un même chez nous fait une connerie qu'il y en a d'autres qui vont la faire, hein, je veux dire
tout à
il
fait.
Faut être un peu, puis on sait pas, c'est ce qu'on disait un peu. On sait pas, c'est pour ça que enfin moi honnêtement, je le dis, je suis contre la peine de mort, même si des fois c'est très très grave, hein, on peut dire, c'est vrai. On tue un enfant, bon, c'est quand même pas marrant, hein. Mais il y a toujours une suspicion, parce que pourquoi ? Quand on va chercher un petit peu dans la vie de la personne, ben on se rend compte que si, que ça.
Bien sûr.
Donc voilà, bon, on va pas faire de la philo. Antonin Sabot, Nous sommes les Chardons, prix Jean Glade, puis surtout, ce qui est bien, c'est tout de suite édité par les Presses de la Cité, quand même. Parce
que, c'est quelque chose.
Ouais. Ça,
hein. Non, c'est une super maison d'édition, de
Capignon-sur-Rue.
Capignon-sur-Rue, et qui publie des romans populaires. Moi, ce qui me plaît beaucoup, Je craignais un peu, voilà, en étant ancien journaliste au Monde, en ayant fait des grandes études, etc., en traitant de la nature de la façon dont j'en parle, j'avais un peu peur de me retrouver dans une maison un petit peu intellectuelle. Enfin, j'aurais été content, hein, je dis pas ça. Je dis pas que c'est pas bien d'être intellectuel, hein, mais que le public, dont le public est assez restreint et qui ne parle qu'à des gens qui sont déjà convaincus.
Voilà.
Et ça, c'est pas intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de toucher les gens, de leur parler dans un langage qu'ils comprennent, qui est le mien aussi. Voilà, j'aime pas faire. Enfin, parfois, ça m'arrive de faire des grandes phrases quand je suis journaliste ou quand je suis avec des amis et que j'ai un peu bu. Mais, mais dans la vraie vie, j'aime bien parler comme les gens parlent. Voilà. Je parle comme ça. Et en fait, ça n'empêche pas de dire des choses intéressantes. Et donc, du coup, j'aime beaucoup cette idée-là de dire une maison d'édition, une collection, un roman de littérature populaire peut très bien véhiculer des choses très intéressantes, des idées qui ouvrent au monde et qui font réfléchir. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Et quand je parle de ça, je parle beaucoup de Jean Giono. Voilà, moi je suis un fan inconditionnel de Jean Giono. Voilà, pareil, un peu comme Jean Anglade, il a été rangé tout de suite dans le régionalisme par des élites parisiennes qui voilà, après on a révisé notre jugement, hein, mais il y avait quand même cette suspicion là première, dès que quelqu'un parle de sa région, dès que quelqu'un parle de la nature, ça devient tout de suite un roman régionaliste et c'est considéré comme pas intéressant. Et ben non, on peut parler de sa région, on peut parler de la nature, on peut parler dans un langage courant et faire des choses qui sont intéressantes. Donc ça me plaît beaucoup et je suis ravi, voilà, d'être dans cette maison d'édition là. Voilà.
Ouais, mais c'est ce qu'on disait quand on va à l'étranger, vous qui avez été beaucoup. Quand on dit vous êtes quoi, français? Ah, français, c'est Paris. Ben non, ah ouais. Paris, c'est pas la France.
C'est ça. Oui. Non, mais par exemple, quand on regarde la littérature américaine, il y a un grand courant, moi, que j'aime beaucoup et que j'incite tout le monde à aller lire, qui s'appelle le nature writing, donc l'écriture de la nature, hein, littéralement. Voilà, avec des gens qui parlent de leur, ou dans lequel la nature, on va dire, est presque un personnage à part entière du livre. Ouais. Où c'est très important. Alors bon, bien sûr, on dit c'est facile aux États-Unis, il y a les grands espaces, il y a ces choses-là, ce genre de clichés-là. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir une plaine de dizaines de milliers de kilomètres carrés. On peut aller dans la forêt du Mont Emeral juste à côté de chez moi, ou de Gerbison, ou du Mézin, et en fait, on peut avoir un rapport à la nature et on peut l'écrire et ça peut être beau sans être passez-moi l'expression, mais sans être cucu, sans être
oui.
Voilà, sans être voilà, dépassé. Et en fait, voilà, comme je dis, voilà, il y a ce courant aux États-Unis, nature writing, il est très encensé, même en France. C'est-à-dire qu'en France, il y a des super collections de maisons d'édition très malignes qui font ça très bien, qui publient ces livres-là. Et en fait, quand on fait la même chose en France, qu'on écrit en français et qu'on habite en Haute-Loire, par exemple, c'est plus dur d'être publié parce que c'est moins bien vu, alors que c'est proche. Donc en fait, voilà, je suis très content que les presses de la cité aient accepté ce livre parce que c'est un signe que voilà, on peut faire de la bonne littérature sur la nature en France, en français dans le texte, voilà, en parlant de sa région. Et en fait, voilà, c'est pas fait que pour enfin, les livres qui parlent des grandes plaines de oui. L'Ohio ou des belles montagnes du Wyoming, ben en fait elles parlent même aux personnes qui habitent à New York ou à Washington.
Oui.
Donc en fait, il n'y a pas de raison, quoi. Ce livre là il peut parler aux gens d'ici, aux gens de Paris, aux gens de Saint-Étienne. Voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère que ça va faire ça, que ce prix Jean Anglade et que le fait que ça soit dans une grande maison d'édition diffusée nationalement, ça permette de rattacher un peu ces deux morceaux de la littérature qui parfois s'affrontent un peu, se chamaillent, quoi.
Voilà, donc aujourd'hui, notre invité du jeudi était Antonin Sabot, nous sommes les Chardons. Alors, c'est toujours ma question traditionnelle de la fin de l'interview. Parce qu'en général, chaque fois que je pose la question aux auteurs qui viennent, est-ce qu'il n'y en a pas un deuxième sous le coude?
Ah, il y en a un qui est en train d'être écrit, ouais. Il n'est pas encore complètement sous le coude. Non,
mais différent, ça... très différent.
Bah, je ne vais pas trop en révéler, ça va quand même parler de forêt. Hein.
Oui, d'accord, oui, la nature.
Voilà.
Mais ça ne sera pas le même thème, je veux dire, voilà, c'est ça. Enfin, ça, si, c'est... la nature, mais on n'aura peut-être pas...
On attaquera ça sous un autre angle, ouais.
Sous un autre angle, voilà. Donc, pour le début de l'année prochaine ?
Eh ben, ça, on verra, parce que j'écris à mon rythme, voilà. Comme vous avez pu comprendre, j'ai pris un chemin qui était bien à moi, quoi. dans Giono, à un moment, il dit, voilà, Penturle, il va par des chemins à lui. Je suis très content d'arriver à aller par des chemins à moi, qui vont parfois plus doucement que ceux des autres personnes qui écrivent des livres, qui arrivent à en écrire un par an. Je sais pas du tout. On verra. Ça avance bien. Mais je me laisse le temps.
D'accord. Mais Antonin, merci d'avoir fait connaissance.
Merci à vous.
On attend le prochain avec impatience, bien sûr, comme toujours, de ces nouveaux écrivains qu'on reçoit. Et puis, vous habitez dans un village magnifique, Mézères. Hein,
ouais.
Moi, je l'ai découvert il y a quelques années avec des copains, parce qu'on louait le gîte qui est là-haut. Et je connaissais Mézères, non, mais c'est vrai que... On a beau être en hauteur, on ne connaît pas
c'est
tout.
Vrai, c'est vrai.
Et c'est vraiment un très, très joli village de caractère. On vous invite d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas, à aller le découvrir.
Ouais. Hein, parce que... Juste un petit mot, j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer des lecteurs en dédicace.
Oui,
c'est un peu compliqué en ce moment avec le Covid, avec ces choses-là. Peut-être, je vous demande un peu d'être patient. Ça viendra peut-être au printemps.
Ouais.
On ne sait pas trop, on verra. Mais voilà, j'aimerais vraiment. On écrit un livre aussi pour le partage, pour le partager.
Oui, c'est ça qui est. Donc, c'est ça qui manque un peu actuellement.
En ce moment, c'est difficile.
Avec les fêtes du livre qui ont plus lieu.
C'est pour ça que je suis très content d'être au micro de cette radio pour pouvoir en parler. Mais...
Et puis déjà, il est là. Hein.
Il existe déjà.
À la radio, oui, mais il est.
Il est déjà dans les librairies.
Il est à Craponne déjà.
Ah, voilà, super.
Au plaisir des mots, chez nos amis Viviane et Marie-Pierre, puisque je leur ai dit que je recevais Antonin Sabot.
Et ben
m'ont dit mais on l'a déjà.
Courez-y, courez-y.
Merci beaucoup, hein,
merci
Antonin,
à vous.
Et puis
merci à tous.
Bon retour. Hein.
Merci beaucoup.
Et puis longue vie en Haute-Loire, hein, parce que
à fond.
La Haute-Loire, c'est magnifique, quoi qu'on en dise.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
Voilà, notre invité du jeudi aujourd'hui était Antonin Sabot pour son premier roman, Nous sommes les Chardons. Édité aux Presses de la Cité, qui a gagné le prix Jean Glas de 2020. Cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h, le mercredi à 12h30.